Donc notre thème d'année, c'est Mon conjoint m'appelle à la sainteté. Et aujourd'hui, le thème de notre journée, c'est Sainteté personnelle et chemin de vie conjugale. Alors il y a au moins deux raisons, très rapidement en introduction, pour lesquelles c'est important de réfléchir sur cette sainteté du couple. C'est que le synode sur la famille commence aujourd'hui, vous avez repéré peut-être. Donc on va parler de la famille, donc on va parler de vous. Mais à l'intérieur du synode sur la famille, il y a une grave question compliquée et sur laquelle on n'a pas encore vraiment de réponse, et c'est cette question des divorcés remariés, qui sont finalement une bonne question à partir d'une situation limite de reposer la vraie question du couple. Le couple, c'est quoi? Le couple, ça sert à quoi? Quel est le regard de Dieu sur le couple? Et quand le couple va pas bien, qu'est-ce que Dieu fait? Et quand le couple ne tient pas et qu'une autre vie se reforme, est-ce que Dieu abandonne les pauvres qui sont dans cette situation à leur triste sort? Et puis, la deuxième raison, c'est qu'à la fin de ce synode, les parents Martin vont être canonisés. Et alors, je vais en reparler parce que il y a un lieu tout à fait intéressant où l'Église est en train de découvrir quelque chose avec les parents Martin qu'elle n'avait jamais découvert avant. Et donc, vous êtes à point nommé dans l'Église comme couple, en train de vous mettre dans les pas des parents Martin pour essayer de vivre la sainteté en couple. Alors, sur la question de la sainteté personnelle et chemin de vie conjugale, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de défis, vous l'avez dit, et tous les couples pourraient le dire, mais c'est bien que chaque couple le dise, que vous êtes hyper différents, comme hommes et femmes, dans vos tempéraments, dans vos histoires de vie, etc. Et puis l'autre chose qui est tout à fait étonnante et qui est un des objets de la conférence d'aujourd'hui, c'est que vous êtes deux, et vous êtes créés par Dieu, et conduits par Dieu individuellement, et pourtant vous choisissez un chemin à deux. Alors, et comment la sainteté personnelle et la sainteté conjugale vont se marier ensemble? Vous êtes vraiment appelé à la sainteté. À la fois, vous contemplerez Dieu dans une solitude absolue, entre guillemets, et à la fois, votre amour de Dieu dans l'éternité, il sera marqué par le cœur du conjoint et par ce que votre conjoint vous aura donné de grand et de beau. Donc ça veut dire qu'il y a, on va en reparler, un mystère dans votre couple qu'il faut découvrir. Comment c'est possible de combiner sainteté personnelle et sainteté conjugale? Chemin de vie humaine et chemin de vie à deux. Voilà le défi. Alors, je voudrais regarder quatre choses avec vous. Je vais essayer de tenir les temps. Heureusement, j'ai deux timekeepers qui me font des gros yeux et qui sont habitués à ce que je dépasse toujours. Donc, je voudrais vous dire un petit mot sur Louis et Zélie, premier couple canonisé comme couple. Je voudrais vous dire un petit mot sur la sainteté du couple à travers la Bible. Je voudrais essayer de répondre avec vous, de commencer à répondre à la question, mais c'est vous qui répondrez dans la vie. Quel est l'appel de Dieu sur notre couple ? Parce que finalement, chaque couple a un appel particulier. Vous avez témoigné de la manière dont Dieu vous a conduit. J'ai bien aimé l'histoire des « je vous en voulais 5, elle en voulait 3, ou je ne sais plus qui en voulait 5, mais on en a eu 8 ». Je n'avais jamais compté comme ça, mais en fait, c'est ça. Voilà, ça fait aussi partie de la beauté de l'appel de Dieu sur votre couple. Et puis, la quatrième question, qui est juste une ébauche de réponse, mais on y répondra dans les différentes conférences de cette année, « comment mon conjoint me sanctifie-t-il » Parce que mon conjoint est aussi appelé par Dieu à me sanctifier. Il y a un petit texte du catéchisme de l'Église catholique sur le mariage qui dit ça, sur lequel je vais revenir. Alors, Louis et Zélie, premier couple canonisé comme couple. Ne vous y trompez pas, Louis et Zélie sont le second couple béatifié en tant que couple. Ils n'ont pas la primauté en tout. Donc, il y a déjà un couple avant eux qui a été béatifié. Est-ce que vous savez qui c'est? Ah, vous êtes trop bons. Vraiment, nos frats Saint-Jean-Couple, elles sont exceptionnelles. Mais en plus, vous êtes dans une frat, vous. Ah ouais, donc c'est les outsiders qui nous apportent les réponses. Alors là, on a intérêt à être au top aujourd'hui. Mais par contre, les époux Martin sont le premier couple canonisé comme couple. Alors je vous relis une petite citation de l'homélie du cardinal José Sarreva Martins, qui était à l'époque préfet de la Congrégation pour la cause des saints. Et à l'occasion de la béatification des époux Martin le 19 octobre 2008, il a dit la chose suivante. Parmi les vocations auxquelles les hommes sont appelés par la Providence, le mariage est l'une des plus nobles et des plus élevées. Louis et Zélie ont compris qu'ils pouvaient se sanctifier, non pas malgré le mariage. Vous vous souvenez que Louis s'était posé la question de rentrer chez les chanoines du Grand Saint-Bernard, qu'il n'avait pas été accepté parce qu'il n'était pas assez bon en latin. Monte le moral à ceux qui sont mauvais en latin. Donc, qu'ils pouvaient se sanctifier non pas malgré le mariage, mais à travers, dans et par le mariage, et que leurs épousailles devaient être considérées comme le point de départ d'une montée à deux. Aujourd'hui, l'Église n'admire pas seulement la sainteté de ses fils de la terre de Normandie, un don pour tous, mais elles se mirent dans ce couple de bienheureux qui contribue à rendre la robe de mariée de l'Église plus belle et splendide. Elles n'admirent pas seulement la sainteté de leur vie, elles reconnaissent dans ce couple la sainteté éminente de l'institution de l'amour conjugal telle que l'a conçue le Créateur lui-même. Ah oui, ça c'est hyper beau. C'est que quand on béatifie ou qu'on canonise un couple, eh bien l'Église reconnaît que ce chemin de couple, c'est un chemin dans lequel Dieu s'engage. Je pense à Saint Nicolas de Flux, et qui a lâché son épouse avec 9 enfants pour aller vivre comme ermite. C'est lui qui a été canonisé d'abord, et tout le monde a piqué sa crise dans l'Église, mais c'est elle qui aurait dû être canonisée d'abord, parce que laisser partir son mari en se retrouvant mère célibataire avec 9 enfants, c'était pas hyper facile. Voilà. Aujourd'hui, l'Église a un regard non seulement de bienveillance, mais aussi vraiment lumineux sur ce que vous vivez et sur cette sainteté à deux. On aurait pu dire ça de vous, ce que Hélène Mongin, qui a écrit un livre sur Louis et Zélie Martin, les saints de l'ordinaire, ce qui fait la sainteté des époux Martin, ce ne sont pas les événements eux-mêmes. Vous n'avez pas raconté une apparition de la Sainte Trinité dans votre cuisine au moment du dîner. Ce qui fait la sainteté des époux Martin, ce ne sont pas les événements eux-mêmes, mais la manière dont ils les vivent. C'est banal, et ça ne l'est pas du tout. Si on tente de caractériser la sainteté des époux Martin, on va voir ce qui va être dit pour leur canonisation, on peut déjà dire sans hésiter qu'ils ont une soif de Dieu inextinguible. Le travail n'a pas encore été fait, mais puisque la correspondance des parents de Louis et Zélie a été publiée, ce serait intéressant de mettre la sainteté de Thérèse, vous voyez, parce que chronologiquement aussi, le bon Dieu fait les choses à l'envers, comme ce que vous avez raconté pour cette théologie humoristique, parce qu'il y avait votre fille, le Dieu a créé tout autour ce qu'il fallait. On a béatifié et canonisé Sainte Thérèse, et donc forcément, ce qu'est Sainte Thérèse, vous l'avez dit pour vos enfants, la foi de Sainte Thérèse, elle dépend quand même un peu de la foi de ses parents. Et ce serait intéressant d'aller chercher certaines racines de la foi de Sainte Thérèse dans ce que ses parents ont essayé de lui donner. Alors, je vous ai sorti 2 petites citations, une de Louis, une de Zélie, de leur correspondance, et puis après, une plus longue citation de Thérèse qui parle de ses parents. J'espère que vous pourrez dire ce que Thérèse dit de ses parents, de chacun de vos parents, et j'espère aussi que vos enfants pourront dire ça de vous. Alors, Louis écrit de Milan, lui aussi il aime bien les voyages, à sa fille aînée Marie, la chose suivante, « Tout ce que je vois est splendide », donc il fait un voyage en Italie, « Tout ce que je vois est splendide, mais c'est toujours une beauté terrestre, et notre cœur n'est rassasié de rien tant qu'il ne voit pas la beauté infinie qui est Dieu. » Comme pas mal pour un cœur de père, vous voyez, de montrer à sa fille par une lettre que les choses de la terre sont belles, mais qu'elles ont goût de trop peu si elles ne sont pas illuminées par le ciel. Et Zélie écrit à son frère Isidore, qui était un païen confirmé, le 23 décembre 1866. Les premières années de correspondance de Zélie qu'on a, il y a plein de lettres qui ont été détruites, mais celle qu'on a, c'est notamment celle qu'elle a envoyée à son frère et que lui avait gardée. Et elle lui écrit la chose suivante. « Je pense souvent à ma sainte sœur. » Sa sainte sœur, c'est sa sœur de sang, donc la sœur de Zélie, qui est religieuse, qui est entrée à la visitation du Mans, qui s'appelle sœur Marie d'Ozité en religion. « Je pense souvent à ma sainte sœur, donc celle qui est religieuse, à sa vie calme et tranquille. Elle travaille, elle, non pour gagner des richesses périssables, elle n'amasse que pour le ciel, vers lequel vont tous ses soupirs. Et moi, je me vois là, courbé vers la terre, dans un métier brodeuse, me donnant une peine extrême, mais c'est de l'or que je n'emporterai pas et que je ne désire pas emporter. Qu'est-ce que j'en ferai là-haut ? » C'est étonnant de voir, complètement indépendamment l'un de l'autre, ce cœur des deux parents, Martin, Louis et Zélie, qui est quand même attiré par le ciel. Et alors, c'est sans doute Thérèse qui nous rapporte de la manière la plus spirituelle ce que furent ses parents. Elle écrit à sa sœur Léonie le 13 août 1893. « Je sais que la terre est le lieu de notre exil. Nous sommes des voyageuses, elle n'a que des sœurs, en fait, qui cheminons vers notre patrie. Qu'importe si la route que nous suivons n'est pas la même, puisque le terme unique sera le ciel. C'est là que nous serons réunis pour ne plus nous quitter. C'est là que nous goûterons éternellement les joies de la famille. » Vous voyez, pour Thérèse, la famille ne s'arrête pas à la terre. Peut-être que vous êtes à un âge où vos parents commencent à basculer de l'autre côté, avec ma petite sœur Jean-Thomas qui est là, puisque nous sommes frères et sœurs de sang, en plus d'être frères et sœurs dans la religieuse, nous avons eu la grâce d'enterrer nos deux parents. C'est vrai que ça te pose la question à une famille et aux enfants de se dire, quand on perd ses parents, qu'est-ce que c'est que cette famille humaine que Dieu a voulu ? Dieu veut une famille qui reste une famille, mais qui s'efface sur la terre
pour se redéployer dans le ciel. C'est quand même assez mystérieux, cette histoire.
Alors, on va essayer de creuser un petit peu ça. Donc, nous serons réunis pour ne plus nous quitter dans le ciel. C'est là que nous goûterons éternellement les joies de la famille. Nous retrouverons, donc là, elle parle de son père, notre père chéri. Donc, ce n'est pas le père du ciel, c'est son papa, Louis, qui sera environné de gloire et d'honneur pour sa fidélité parfaite et surtout pour les humiliations dont il a été abreuvé. La Thérèse, vous le savez, fait référence à sa maladie qui fait qu'il a été interné en hôpital psychiatrique pendant 4 ans. Nous verrons notre bonne mère, donc ce n'est pas la Vierge Marie, c'est Zélie, qui se réjouira des épreuves qui furent notre partage pendant l'exil de la vie. Nous jouirons de son bonheur en contemplant ses 5 filles religieuses. Et un regard un peu sur la vocation des enfants vue du côté du ciel. Je ne sais pas si vous diriez ça si tous vos enfants étaient religieux. Et nous formerons avec les 4 petits anges qui nous attendent là-haut, les 4 enfants, les 2 filles, 2 garçons que Zélie a eu et qui sont décédés, une couronne qui scindra pour toujours le front de nos parents chéris. Avec ce regard un peu majestueux d'une fille qui regarde ses parents avec les yeux de Dieu. Quand Sœur Jean-Thomas et moi, ou plutôt chronologiquement moi et Sœur Jean-Thomas, nous sommes rentrés dans la communauté, nous sommes 5 enfants avec 3 qui sont mariés, les parents n'avaient pas l'impression de jouir d'un bonheur éternel en contemplant les 2 enfants religieux. Mon père m'a dit un jour, notre papa nous a dit un jour, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'en prenne 2. Je lui dis, cher papa, il t'en a pris 5, parce qu'on a la chance d'avoir tous la foi, il t'en a pris 5 et il a fait 5 choses différentes avec chacun des 5 enfants, donc il ne te les a pas pris, il te les a redonnés autrement. Et voilà, pour un cœur de parent, pas évident de regarder sa vocation du haut du ciel. Quand j'ai annoncé ma vocation à ma petite maman, sa première réaction, c'était de se mettre à pleurer, ensuite de passer de la cuisine où j'essayais de lui parler dans le salon, puis du salon dans le garage, et comme je la poursuivais de mes assiduités, du garage dans le jardin. Et puis dans le jardin, elle a fini par me dire, la vocation dans une famille, c'est comme les autoroutes, c'est toujours mieux dans le jardin du voisin. Et super encouragement à la vocation, quoi. Alors peut-être Sœur Jean-Thomas témoignerait d'autres choses, mais moi, c'est ça, la première parole d'encouragement de ma mère. Et après, quand j'en ai parlé à mon père, il m'a dit, c'est du gâchis. Voilà. Donc maintenant qu'ils sont au ciel, ils contemplent la face de Dieu et ils discutent avec les parents Martin de ce que ça veut dire d'avoir des enfants religieux. Alors, la petite chose, je ne veux pas développer plus ça, mais je voudrais insister sur un aspect qui me semble essentiel. Ceux qui me connaissent, vous m'avez déjà entendu là-dessus et j'y reviens à chaque fois parce que pour moi, c'est hyper important. Pourquoi l'Église a mis autant de temps à découvrir que des couples peuvent être canonisés? Donc, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité. Il y a 33 couples qui sont déjà béatifiés, les 2, mais séparément. C'est pas beaucoup, 33 couples. Ça fait 66 personnes par rapport aux milliers de saints qui sont béatifiés, qui sont aussi quelquefois mariés, mais qui ne sont pas canonisés ou béatifiés ensemble. Il y a comme un appel de Dieu pour les couples d'aujourd'hui à vivre la sainteté. Qu'est-ce qu'on peut dire? Pourquoi on peut essayer d'expliciter ça? Eh bien, parce que dans le temps qui est le nôtre, les couples que vous êtes, vous prenez une importance particulière dans le plan de Dieu. Pourquoi? Parce que dans le plan de Dieu, vous représentez déjà sur la terre la vocation éternelle de l'Église. Le motif qui court le plus dans toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est que Dieu est l'époux de son peuple élu, qui est l'épouse, et son peuple élu dans la Nouvelle Alliance, c'est l'Église. Et donc Dieu est l'époux, et l'Église tout entière, l'Église corporative, l'Église comme une personne plus que morale, comme une personne qui est un corps et son épouse, eh bien ce motif-là, il devient de plus en plus prégnant au fur et à mesure qu'on avance dans la Bible. Ça veut dire que cette Bible, elle nous dit aussi un peu la manière dont Dieu se révèle à travers l'histoire, et l'Église de l'Apocalypse, elle nous dit aussi un peu ce que sera l'Église à la fin des temps. Plus l'Église s'avance vers la fin des temps, plus ce qu'elle doit devenir devient visible. Et le motif le plus visible pour décrire l'Église dans l'Apocalypse, c'est l'épouse de l'agneau. L'épouse du Christ qui a donné sa vie pour elle. Vous voyez, une épouse qui a invité à donner sa vie comme son époux a donné sa vie. Et bien, dans cette Église qui s'achemine vers la fin des temps, le couple prend une place de plus en plus importante. Vous nous montrez de manière de plus en plus visible au cours du pèlerinage de l'Église ce que l'Église doit devenir à la fin des temps. Si vous lisez l'Apocalypse un soir pendant le carême pour ne pas dormir, vous vous posez cette question, qu'est-ce que dit le livre de l'Apocalypse sur le pape, les évêques, les prêtres, les sacrements et les ministères? Tout ce qui fait la structure de l'Église d'aujourd'hui. Eh bien la réponse, c'est rien, pas un mot. l'église de la fin des temps, l'église qui devient l'épouse de l'agneau. Il n'y a pas de pape, il n'y a pas d'évêque, il n'y a pas de prêtre, en tout cas qui sont cités et qui font quelque chose. Il n'y a pas de ministère et il n'y a pas de sacrement. Ça veut dire que le visage de l'église d'aujourd'hui, eh bien, il va encore changer pas mal pour que Dieu puisse transformer l'église d'aujourd'hui dans quelque chose qui se rapproche de l'église du ciel. Et bien, dans cette transformation qu'on est en train de vivre, vous avez un rôle extraordinaire à jouer parce que vous allez passer au premier plan. Parce que vous, la vocation d'époux et d'épouse, vous la vivez au quotidien. Et donc, vous n'êtes pas simplement, comme on vous a dit dans votre préparation au mariage, c'est hyper abstrait, vous représentez l'amour du Christ pour son église. Cette représentation, elle est hyper abstraite, vous voyez, c'est comme un peu une BD ou un imaginaire. Dans sa tête, on se dit qu'on est l'époux et l'épouse, comme le Christ est l'époux de l'Église. C'est hyper abstrait. Ce qui est hyper concret, c'est que l'Église dans le ciel, elle sera l'épouse du Christ. Eh bien, vous, vous êtes déjà sur la terre, époux et épouse. Donc, vous avez une dimension, votre vocation d'époux et d'épouse, aujourd'hui, elle a une dimension eschatologique. Vous dites à l'Église d'aujourd'hui qu'elle doit encore devenir quelque chose qu'elle n'est pas tout à fait. Eh bien, dans cette Église-là, le sacerdoce, je ne dis pas qu'il va s'effacer, mais il va se mettre de plus en plus au service de ça. Donc, du point de vue du fondement, le sacerdoce, la hiérarchie, les ministères, tout ça, c'est très important. Du point de vue de la vocation dernière de l'Église, le théologien et le philosophe vont dire la finalité, ce que doit devenir l'Église, c'est vous qui êtes au cœur de l'Église. Vous voyez ? Et donc, on est en train, dans le synode des familles, de comprendre qu'il y a un changement de perspective qui va devoir se faire. Alors, il y a plein d'éléments historiques qui montrent que ce changement de perspective, depuis le Concile Vatican II, depuis même un peu avant, depuis le début du 20e siècle, il commence à se faire. Donc, ayez confiance que Dieu va encore se servir de vous, bien plus que ce que vous nous avez dit, qui est déjà hyper beau, dans votre témoignage particulier. Mais Dieu a encore un plan d'amour sur vous, les couples, dans son Église, qu'il n'a pas encore déployé. Et c'est pour ça que vous avez un rôle tout à fait essentiel à jouer. La sainteté du couple dans l'Écriture et la vie de l'Église, alors on pourrait développer énormément de choses. Qu'est-ce que la sainteté ? Si on regarde dans l'Ancien Testament, le mot kadosh ou kadash comme verbe, kadash et kadosh comme adjectif, comme verbe ça veut dire être consacré, être saint. Et kadosh comme adjectif ça veut dire celui qui est saint, qui est mis à part et qui est séparé. Et l'adjectif, c'est l'apanage des personnes, c'est d'abord Dieu qui est saint, ensuite c'est les anges, et sur la terre, vous voyez, ça descend, la sainteté de Dieu, elle descend du ciel sur la terre, ensuite après les anges, la première chose qui est sainte, de manière récurrente, c'est le temple, le lieu où Dieu demeure. Et la sainteté, j'allais dire, elle doit devenir visible sur la terre. La sainteté de Dieu, elle doit devenir concrète. Et bien, le couple, il doit rendre quelque chose de cette vocation de l'Église concret sur la terre. Et puis, après le temple, il y a les prêtres, les objets, jusqu'à l'eau. On a par exemple un des lieux éminents où Dieu est invoqué par les séraphins, qui contemplent sa gloire et qui révèlent sa gloire, Isaïe 6, 3, saint, 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 et Yahvé Sabaoth, le Seigneur Sabaoth, sa gloire emplit toute la terre. Donc la sainteté de Dieu, elle est identique à sa gloire qui se révèle sur la terre. Ce qui est Dieu, il veut le donner à l'Église qui est sur la terre. Et dans le livre du Deutéronome, Dieu s'adresse à son peuple, et la sainteté, elle n'est pas d'abord celle du couple ou celle de l'individu dans l'Ancien Testament, elle est celle du peuple. Deutéronome 7, 6, tu es un peuple consacré, kadosh, au Seigneur ton Dieu. C'est toi que le Seigneur ton Dieu a choisi pour son peuple à lui parmi toutes les nations qui sont sur la terre. Et Dieu prépare ce travail, cette identification de tout le peuple et de toute l'humanité à l'épouse, en appelant déjà son peuple, comme peuple, à être consacré à Dieu, à être mis à part, à dire quelque chose de particulier que les autres peuples ne disent pas. Et alors après, si, en allant un peu quelques versets plus loin, en verset 9, la raison de cette consécration, ou la cause de cette consécration, tu sauras que le Seigneur ton Dieu est le vrai Dieu, le Dieu fidèle qui garde son alliance et son amour pour 1000 générations à ceux qui l'aiment et gardent ses commandements. Dieu consacre un peuple en faisant une alliance avec lui. On peut simplifier tout le débat autour des divorcés remariés, même de la nature du couple, en disant, est-ce que le couple c'est d'abord un contrat juridique, vous voyez, qui demeure, même si les contractants n'ont plus envie de le vivre ? Par exemple, un divorce, ou est-ce que le mariage, c'est d'abord une alliance, et une alliance qui n'est indissoluble, si on pousse la théologie jusqu'au bout, que du côté de Dieu. Dieu s'engage définitivement dans ce qu'il fait, c'est le seul. Nous, on essaye de s'engager progressivement de plus en plus dans ce qu'on fait, mais nous sommes marqués par le péché, par l'infidélité, par l'égoïsme, et donc nous ne pouvons pas répondre avec l'audace de Dieu enfin avec la même audace à l'audace que Dieu a à notre égard. Et donc l'alliance personnelle et sponsale, vous voyez, d'époux et d'épouse entre Dieu et son peuple, elle se réalise un peu comme une cascade, vous voyez, comme quand à un mariage on fait descendre le champagne du verre du haut vers les verres du dessous. Eh bien, il y a une cascade de médiation, d'instruments dont Dieu se sert pour que son alliance, elle puisse devenir concrète pour le couple. C'est d'abord la tribu, puis c'est ensuite le clan, donc les 12 tribus d'Israël qui sont divisées en clans, et ensuite la famille qui est nommée dans la maison, dans la Bible, la maison. Le nom dans l'Ancien Testament de la famille, c'est la maison. C'est pour ça que l'église primitive, on l'a appelée une domus ecclesiae, les premières églises, l'église la plus ancienne du monde qui est en Syrie, malheureusement sous les bombes, à Doura, Europos, eh bien c'est une maison particulière, une maison avec un patio à l'intérieur, dont une pièce est réservée au culte, et on a encore dans le crépi du mur, 283, donc fin du 3e siècle, l'inscription du moment où cette maison a été refaite avec des fresques pour être utilisée comme une église. Vous voyez, le motif de la famille, qui est celui de la maison, eh bien, il va servir aussi à l'église des débuts pour comprendre son identité. La manière dont Dieu s'engage à l'égard d'un peuple, eh bien, au niveau cellulaire, c'est la famille. C'est pour ça que, je vous le dis, même si peut-être un prêtre de paroisse ne dirait pas la même chose, mais théologiquement, c'est tout à fait légitime, et je vous encourage à ça si vous connaissez bien des prêtres, c'est pas du tout illégitime de manière particulière de célébrer une messe chez vous. C'est absolument pas antiliturgique. C'est pas habituel. N'invitez pas tous les prêtres que vous aimez bien le dimanche à célébrer la messe chez vous en séchant la messe de la paroisse, c'est pas ça que je veux dire. Mais une messe à la maison, mais oui, ça, c'est le lieu où l'Église a commencé. Donc, quand vous bénissez la maison, plutôt que de mettre juste un peu d'eau bénite sur les quatre coins de la maison, et bien, invitez un prêtre à célébrer une messe chez vous. Quand vous célébrez un anniversaire de mariage, vous pouvez aller à une messe dans une église avec tous vos amis, mais vous pouvez aussi célébrer une messe chez vous. Ce n'est pas du tout une concurrence. Mais le lieu où la vie chrétienne se vit, ce n'est pas la paroisse, c'est chez vous. Là où les enfants sont insupportables, c'est aussi quelquefois la paroisse, mais dans la prière familiale, c'est d'abord chez vous, quoi. Alors la famille se compose de ceux qui unissent à la foi, la communauté de sang et la communauté d'habitation. Donc, mais la famille, ce n'est pas simplement la famille cellulaire, c'est tous ceux qui vivent ensemble, qui peuvent aller jusqu'à quelquefois dans les familles qui ont des sous et qui ont de la place, 50 ou 100 personnes. Le cœur de la famille, c'est l'alliance entre l'homme et la femme. Alliance qui est nommée à trois reprises comme une alliance. On a trois beaux passages dans l'Ancien Testament. Dieu a scellé une alliance avec son peuple sur laquelle il ne reviendra pas. Ça, c'est dans le livre d'Ézéchiel, quand Dieu s'adresse à son peuple comme un époux, comme un amant à l'égard de son amante. « Je passais près de toi et je te vis, c'était ton temps, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de mon manteau. » C'est le signe liturgique et aussi légal, mettre son manteau sur le dos de l'épouse. Vous voyez, la galanterie française, eh bien, dans le judaïsme ancien, ça veut dire « choisir pour épouse ». J'étendis sur toi le pan de mon manteau et je couvris ta nudité. Je m'engageai par serment, je fis un pacte avec toi, oracle du Seigneur Yahvé, et tu fus à moi. Dieu s'engage par serment à l'égard de son épouse. Deuxième occurrence, la femme volage. Donc il y a le côté positif de l'alliance, puis il y a celle qui brise l'alliance. La femme volage est celle qui a oublié l'alliance que Dieu a faite avec elle dans son premier mariage. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 2. Versets 10 et 11, « Quand la sagesse entrera dans ton cœur, que le savoir fera les délices de ton âme, la prudence veillera sur toi, l'intelligence te gardera. » Et versets 16 et 17, « Pour te garder aussi de la femme étrangère, de l'inconnue aux paroles enjôleuses, elle a abandonné l'ami de sa jeunesse, donc son premier mari, elle a oublié l'alliance de son Dieu. » Donc, positivement, Dieu scelle une alliance sur laquelle il ne revient pas. De manière négative, Dieu met en garde de ne pas abandonner cette alliance. Et troisième perspective de l'Ancien Testament, la femme est pour son mari, et c'est son nom, la femme de son alliance. Donc à la fois l'alliance avec son mari et puis avec Dieu. Et ça, c'est dans le livre de Malachie. Voici une seconde chose que vous faites, vous couvrez de larmes l'autel du Seigneur avec lamentation et gémissement, parce qu'il se refuse à se pencher sur l'offrande et à l'agréer de vos mains. Et vous dites pourquoi ? C'est que le Seigneur est témoin entre toi et la femme de ta jeunesse que tu as trahie, bien qu'elle fût ta compagne, et la femme de ton alliance. Et c'est hyper beau comme expression. On pourrait le dire dans l'autre sens aussi, dans le mot de ça. Mais voilà. Vous êtes chacune, mesdames, la femme de l'alliance de votre époux avec vous. Et vous, messieurs, vous êtes l'homme de l'alliance que votre femme a scellée avec vous. Ça, c'est un nom biblique que vous pouvez vous donner, plutôt que mon chou, mon petit poulet. Eh bien, la femme de mon alliance. C'est pas mal, c'est pas évident de dire ça dans la tendresse conjugale, mais c'est quand même hyper beau, quoi. Au moins que vous l'entendiez, que c'est le regard de Dieu dans l'Écriture sur le nom qu'il vous donne. Vous êtes définis, vous l'avez dit de manière très belle dans votre témoignage, que votre couple, il est aussi une relation parce que Dieu est relation, Dieu est amour. Eh bien, c'est comme ça que Dieu vous regarde, comme celui qui est défini, celui ou celle qui est défini par l'alliance avec son conjoint. Bien sûr, la sainteté du couple, elle est plus précise. Alors, il y a plein de couples dans l'Ancien Testament qui sont d'abord regardés dans la Genèse, dans les deux livres de Samuel, d'abord comme au service de la procréation. Le couple, il n'est pas saint tout de suite. Adam et Ève, il ne nous est rien dit dans la Genèse sur leur sainteté. Ils servent à continuer la génération, à continuer l'alliance avec Dieu. Et c'est que progressivement, que petit à petit, une dimension personnelle entre l'homme et la femme va se découvrir dans la Bible. Et il faut aller jusqu'au Christ, avec ses grandes analogies du Christ et de l'Église, qui va parler du mystère de l'époux et de l'épouse, du mystère des noces du Christ avec l'Église, qui désigne l'alliance entre l'époux et l'épouse humain, pour comprendre que le mariage va acquérir un poids de sainteté qui est voulu par Dieu. Dans la première épître de Saint Pierre, à l'exemple du saint qui vous a appelé, devenez saint, donc ça c'est un précepte général, devenez saint vous aussi dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saint parce que moi je suis saint. Vous voyez, c'est peut-être déjà un premier petit élément de réponse à la question, pourquoi Dieu veut vous rendre saint ensemble ? D'abord parce que ce précepte, il est impossible à vivre. Soyez saints comme je suis saint, quand c'est Dieu qui parle, évidemment, ça vous dépasse tous. Et nous aussi, les consacrés. Donc on ne peut pas être saint, trois fois saint, comme Dieu est saint dans son éternité. Donc, mission impossible. Mais pour que cette mission impossible devienne quand même possible, eh bien Dieu va mettre auprès de vous un conjoint sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer et découvrir dans sa vie, dans son cœur, dans le chemin à deux, je vais y revenir dans un instant, quelque chose de la conduite de Dieu. Et nous, les consacrés, qui ne sommes pas en couple, eh bien le Seigneur nous donne des frères et des sœurs qui, par un certain côté, sont beaucoup plus difficiles à aimer que vous. Quand vous en avez marre de votre conjoint, vous pensez à nous. C'est que vous, vous êtes choisis quand même, à quelque part. Nous, on ne s'est pas choisis. On débarque dans un couvent, on n'a choisi personne. Moi, quand je suis arrivé au noviciat, un mois que j'étais au noviciat, je vais voir le père maître. Je lui ai dit, je les déteste tous, ces frères-là. Alors, il me donne la liste des frères du couvent. On était 70. Et il me dit, coche-moi dans cette liste de 70 celui que tu aurais choisi comme un ami dans le monde. Et tu as une semaine pour répondre à mon questionnaire. Une semaine après, je lui ramène la feuille vierge en me disant « aucun ». Il me dit « eh bien, ça tombe bien. Le Seigneur a choisi 69 frères, c'était moi le 70e, a choisi 69 frères pour que ton cœur grandisse à une taille que tu n'aurais jamais même osé espérer si tu étais resté tout seul dans ton coin. » Ça m'a un peu calmé. Il m'a dit « il va falloir que tu découvres chacun de ces frères-là comme quelqu'un que Jésus met auprès de toi pour que tu grandisses en sainteté. » Alors vous n'avez pas 70 conjoints, même avec 8 enfants, qui est un chiffre déjà exceptionnel, ça reste mesuré. Et en même temps, voilà, vous vous êtes choisis pour lire dans le cœur de votre conjoint quelque chose de l'appel de Dieu. Alors après, il faudrait relire tous les textes qui sont plus proches du mariage, notamment le grand texte de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, les versets 21 à 33, « Soyez soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ », etc. Et puis, je cite juste les deux derniers versets, au verset 31, « Voici donc que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Ce mystère est de grande portée, je veux dire qu'il s'applique au Christ et à l'Église. » Alors juste pour vous donner un petit mot là-dessus, mais je ne vais pas le développer, vous l'aurez dans la conférence écrite, le Nouveau Testament ne nous parle que de 6 couples mariés qui ont été considérés par la suite comme saints par l'Église. Joseph et Marie, Zacharie et Élisabeth, Joachim et Anne, Cléophas et Marie, femme de Cléophas, Aquila et Priscilla, Philémon et Apphia. C'est peu au regard des 72 disciples et auprès des 3000 conversions des Actes des Apôtres en Actes 2, 41. Alors le couple le plus facile à regarder et le plus dérangeant, c'est Marie et Joseph. Parce que si vous regardez la vie de Marie et Joseph, je ne dis pas qu'ils ont galéré, parce que ce serait regarder ça d'abord du côté négatif, mais quand même, Dieu est intervenu à pas mal de reprises dans la vie de chacun d'eux pour mettre tous leurs plans à mal. Mais si je vous prends juste la Vierge Marie, qui se consacre à Dieu alors de sa vie consciente, bon, ça c'est l'évangile apocryphe de Thomas qui le dit, mais on l'a repris comme une fête liturgique quand même. Donc la Vierge Marie, elle veut donner toute sa vie à Dieu. Et puis Dieu va lui demander de se fiancer à Joseph, pour épouser Joseph, sans avoir de relation sexuelle, en ayant pourtant un enfant. Et chaque fois que la Vierge Marie, elle s'adapte à quelque chose que Dieu lui demande, donner sa vie à Dieu. Dieu dit non, c'est pas ça que tu vas faire, tu vas te marier. Ok, je vais me marier avec Joseph, et l'ange débarque en disant, tu vas être la mère du Fils éternel de Dieu, est-ce que tu acceptes ? Marie dit son fiat, et donc ça change complètement ses plans, elle devient mère, mais sans la coopération physique de Saint Joseph. Ensuite, cet enfant, qui est son fils unique, il va falloir qu'elle l'offre à la croix. En même temps qu'elle offre Jésus à la croix, quand elle a tout donné, Jésus lui dit une parole qui est aberrante pour un cœur de mère en regardant Jean, « Voici ton fils. » Jean n'est pas le fils de Marie. Donc Marie doit choisir une nouvelle maternité. Et à travers Jean, elle va choisir une maternité sur toute l'Église. Vous voyez, la Vierge Marie dans son couple, et c'est pendant ses fiançailles, je dis toujours ça aux fiancés, je dis, c'est pendant les fiançailles qu'il se passe le plus de trucs dans la vie de la Vierge Marie. Là où Dieu vient surgir dans sa vie pour changer tous ses plans. Et dans la vie du couple, eh bien, il y a aussi ces dérangements profonds que Dieu vient apporter quand il intervient dans votre vie. Donc ne soyez pas étonnés que votre couple soit aussi un laboratoire dans lequel l'Esprit Saint est perpétuellement à l'œuvre pour vous déranger. Le catéchisme de l'Église catholique 1641 dit « En leur état de vie et dans leur ordre, les époux chrétiens ont dans le peuple de Dieu leur don propre. Cette grâce propre du sacrement du mariage est destinée à perfectionner l'amour des conjoints, à fortifier leur unité indissoluble. Par cette grâce, ils s'aident mutuellement à se sanctifier dans la vie conjugale, dans l'accueil et l'éducation des enfants. » Alors, quel est l'appel de Dieu sur votre couple ? Eh bien, je vous l'ai dit en commençant, Dieu vous a créé chacun pour sa gloire et en même temps, il vous a envoyé l'un à l'autre pour vous configurer à lui en prenant, j'aime bien dire ça comme ça, la couleur du cœur de l'autre dans la charité qui vous unit. Qu'est-ce qui restera de votre lien sur la terre, dans le ciel ? Je vous disais, l'Église de l'Apocalypse, il n'y a plus de sacrement, il n'y a pas non plus de sacrement de mariage. Dans le ciel, vous ne serez pas mariés sacramentellement. Vous serez mariés par la charité qui, héroïque qui aura uni vos cœurs sur la terre. Rassurez-vous, toutes vos disputes, il n'y en aura plus de traces. Tous vos petits égoïsmes, toutes vos colères rentrées, tout ce que vous n'avez pas osé dire à l'autre parce que vous lui en vouliez trop, ça sera englouti dans la miséricorde de Dieu. Qu'est-ce qui restera de votre lien sur la terre, dans le ciel ? Il restera tous les moments de charité profonds que vous aurez passés l'un avec l'autre. La charité, et la charité héroïque, elle est éternelle. Voilà ce qui vaut le coup, ce qu'il vaut le coup de vivre sur la terre pour pouvoir le vivre dans le ciel. Les trois petites choses qui sont intéressantes, c'est que cet amour de chaque couple de conjoints, j'ai envie de dire, il est triplement unique. Il est triplement unique parce que chacun de vous est unique et que cette combinaison de ce que vous êtes ensemble, elle est encore plus unique. Rappelez-vous le psaume 139. C'est toi qui m'as formé les reins, c'est le psalmiste qui s'adresse à Dieu, Dieu son créateur, qui m'a tissé au ventre de ma mère. Je te rends grâce pour tant de prodiges, merveille que je suis, merveille que tes œuvres. Mon âme, tu la connaissais bien, mes os n'étaient point cachés de toi, quand je fus façonné dans le secret, brodé au profond de la terre. Pour une mère de famille qui avait une grossesse un jour difficile, que je connaissais, je lui avais pris des citations de la Bible pour accompagner toute sa grossesse, tous les mois de la grossesse, avec des citations de l'Écriture. Et pour qu'elle regarde un peu sa vie et cette maternité avec le regard de Dieu. Et ça, c'était un beau psaume qui m'avait beaucoup servi pour éclairer ce regard de Dieu sur chacun de vous, de nous. Dieu nous veut d'une manière unique. Et quand deux personnes uniques font une alliance unique, eh bien, ça fait une réalité qui est encore plus unique. Et donc, tous vos couples, ils sont extraordinairement uniques. Et ça, ça fait la beauté de l'Église. Justement, la différence entre vous et les théologiens, vous voyez, c'est que chaque théologien dans sa confession dit « l'Église c'est moi ». Moi, théologien catholique, je sais que l'Église c'est moi, donc les autres ne représentent pas l'Église, ne sont pas l'Église aussi bien que moi. Vous, vous avez une humilité que les théologiens n'ont pas, c'est qu'aucun couple que je connais au long de ma longue carrière ecclésiastique ne m'a jamais dit « le couple c'est nous ». Les autres, c'est des sous-couples, vous voyez, c'est des couples de seconde zone. Vous êtes tous des couples authentiques, vous vivez tous cette grâce du sacrement de mariage, ce réalisme de Jésus présent dans votre couple, mais avec vos différences que vous respectez. Quand vous êtes dans une frate, vous voyez bien que les autres couples, ils sont proches de vous, mais en même temps qu'ils vivent quelque chose de différent. Ce n'est pas du tout un obstacle à ce que vous vivez en couple, ça peut vous enrichir, ça peut vous poser des questions, ça peut vous rapprocher d'eux, etc. Eh bien, ça c'est tout à fait étonnant de voir que chaque couple est unique et que cette unicité, elle dit quelque chose du mystère du couple. Vous êtes à la fois complètement individualisé, et si on prenait un des deux membres de votre couple et qu'on le remplaçait par autre chose, mais j'ai rencontré la première fois il n'y a pas longtemps une mère de famille veuve, remariée à un veuf, avec une situation de famille hyper compliquée, absolument passionnante. Et elle dit, mais nous, voilà, tout est différent dans notre famille. Elle dit, qu'est-ce qu'on fait pour l'anniversaire de mariage, du premier mariage du conjoint ? Est-ce qu'on fait une nuit d'adoration ? Est-ce qu'on fait un dîner au resto ? Est-ce qu'on le fait parler de son premier conjoint ? Ou est-ce qu'on dit rien ? Voilà. Mon mari, c'est qui ? Me dit-elle. Parce que le vrai choix, le premier choix que j'ai fait, c'est mon premier mari. Après, la situation était tellement compliquée des deux côtés qu'on s'est retrouvés et qu'on s'aime. Mais ce n'est pas le même choix. Est-ce que j'aurais choisi mon mari si c'était, est-ce que j'aurais choisi mon mari d'aujourd'hui si ça avait été mon premier choix ? Vous voyez, plein de questions intéressantes. Si c'était mon premier choix, c'est un couple qui va bien, hein, détrompez-vous. Mais c'est un couple qui se pose plein de questions. Donc voilà, cette unicité, elle est réelle dans un couple. Et quand on se remarie, parce que la vie fait qu'on se remarie et que si le conjoint est décédé, eh bien, cette unicité, elle se vit d'une manière particulière. Il y a une unicité qui n'est plus une unicité, qui reste quand même une unicité, parce que le deuxième couple, il reste unique aussi. Et pourtant, j'ai eu un premier mari ou une première épouse. Voilà. Ça, c'est ce que vous êtes. Donc rendez grâce pour cette unicité qui fait que vous êtes différents. Moi, dans les fiancés que je prépare en mariage, ils me disent toujours, je ne sais pas si on va y arriver, on est tellement différents. Alors je leur dis, vous savez, c'est d'une banalité sans nom ce que vous me dites. Parce que vous n'êtes pas des clones l'un de l'autre. Et donc forcément, tous les couples sont différents. Et vos différences qui sont quelquefois pénibles et qui sont quelquefois un lieu de tension et de souffrance, eh bien, regardez-les comme un lieu où l'amour de votre couple et le choix que Dieu a fait en vous envoyant l'un à l'autre est tout à fait unique. Et cette fécondité, non seulement votre amour est unique, mais la fécondité de cet amour est unique. Vous nous avez témoigné, à votre manière, de ce que le chemin de Dieu dans votre vie a représenté, sur le nombre d'enfants, sur vos engagements, sur l'aspect missionnaire, sur ce que vous avez découvert de l'Église, et chaque couple d'entre vous pourrait dire quelque chose. Et donc cet amour, finalement, qui est le milieu de vie dans lequel votre amour à vous grandit et dans lequel vos enfants grandissent, eh bien, il n'est pas reproductible. Il est un milieu de vie absolument singulier que Dieu regarde avec une bienveillance particulière. Et donc, j'en viens à un dernier petit élément, le rôle prophétique du sacrement de mariage pour notre couple. J'ai envie de vous dire, vous êtes des couples d'âges différents, il y a un certain nombre qui ne sont pas trop vieux, je m'adresse peut-être plus particulièrement à eux, mais aussi à ceux qui sont plus mûrs. N'attendez pas de l'extérieur le dynamisme de votre couple. C'est pas parce que vous avez des nouveaux enfants, des enfants qui arrivent dans la famille, que le bon Dieu vous donne. C'est pas parce que vous déménagez, c'est pas parce que le boulot change, c'est pas ça qui fait le dynamisme de votre couple. Si vous attendez de votre couple un dynamisme extérieur, si vous attendez que l'extérieur vous donne un dynamisme, un jour, il n'y aura plus de dynamisme. Parce que quand les circonstances extérieures seront bien calées, que tous vos enfants seront grands, que le métier ne changera plus tellement, eh bien, si vous n'avez pas nourri de manière active votre propre couple, eh bien, il y aura un grand vide, un immense vide. C'est tous les couples qu'on reçoit à trous sûrs. Il n'y a pas que ça, mais il y a aussi ça. Le sacrement du mariage doit vous permettre de regarder votre couple comme déjà habité par Jésus qui en fait quelque chose. Et c'est plus que le sacrement. Et le sacrement, il est l'instrument de ça. Il est le lieu où Dieu se révèle. Mais ce n'est pas d'abord le sacrement qui est important. C'est d'avoir la présence de Jésus. La présence de Jésus, elle n'est pas que sacramentelle. Elle est aussi dans la tendresse du conjoint, dans un sourire de bienveillance, dans un encouragement, dans quelque chose de beau qu'on va dire à l'autre. Quand je te vois faire ça, je suis en admiration devant ce que tu es pour moi. Parole bienveillante qui fait grandir. Épître aux Philippiens, il y a assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même en toute chose. Parce qu'on est capable de regarder dans le cœur de l'autre ce qui me fait grandir. Et donc c'est aujourd'hui qu'il faut, découvrir le Christ présent à travers le conjoint. Jésus vous parle à travers votre conjoint. Votre conjoint, c'est Jésus pour vous, d'une certaine manière, pas seulement, mais aussi. Et d'autre part, découvrir cette dimension prophétique que votre petit couple de rien du tout qui se bat avec l'argent, avec le conjoint, avec les enfants, avec le métier, tout ce que vous voulez, eh bien il est déjà en petit quelque chose qui fait partie de l'Église du ciel. Il faut que vous ayez une espérance dans chacun de vos couples prodigieuse, une espérance prophétique que Dieu n'a pas fini de vous dire ce qu'il veut dire à votre couple. Alors, juste un petit point, parce que mon temps est quasiment écoulé. Comment mon conjoint me sanctifie-t-il ? Je vous donne trois pistes. Dans ses qualités, dans ses fragilités et dans notre chemin ensemble. Ça, on y reviendra dans l'année au cours des conférences. Dans ses qualités, j'aime bien la petite phrase de Jésus qui touche un peu l'eschatologie, le retour, son retour, où Jésus dit « Veillez donc et priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. » Est-ce que je peux regarder mon conjoint ? Ça va faire partie des questions qu'on va vous poser pour le temps en couple. Qu'est-ce que mon conjoint me dit du mystère de Dieu ? Comment mon conjoint me révèle un des attributs de Dieu, l'humour de Dieu, la tendresse de Dieu, la sollicitude de Dieu, la sagesse de Dieu. Eh bien, est-ce que je vois mon conjoint, dans ce qu'il y a de beau dans notre couple et dans ce qu'il y a de difficile, essayer de se tenir debout devant le Fils de l'homme ? Ça, c'est une belle... Vous voyez, c'est encore mieux que la femme de mon alliance. Regardez son conjoint comme celui qui se tient en oraison devant la face de Dieu, les catacombes romaines, il y a un motif païen qui va être récupéré par les premiers chrétiens autour de la Vierge Marie qui s'appelle le motif de l'Orante. On voit une femme avec une grande robe et les deux mains élevées en train de prier. Quoi. Ben, est-ce que je regarde mon conjoint comme quelqu'un qui essaye dans sa foi, dans son quotidien, dans ce qui fait notre vie de couple, de se tenir devant le Fils de l'homme ? Quand je vois Dieu à l'œuvre dans le cœur de mon conjoint, et ben, je vois mon conjoint essayer d'être debout devant le Fils de l'homme. Dans sa prière, dans ses choix, dans le surnaturel de ses réactions. Mon conjoint qui est toujours hyper colérique et qui fait une retraite pour lui ou pour elle et qui, à un moment où je suis sûr qu'il ou elle va se mettre en colère, a un peu de recul, un peu d'humour sur soi en disant « Tu vois, aujourd'hui, je ne me suis pas trop mis en colère. » Et bien, voilà, ça détend l'atmosphère d'un couple et je vois le surnaturel à l'œuvre dans le naturel de mon conjoint. Comment je peux coopérer à ça ? Dans ses fragilités, l'autre, il m'est donné dans son intégralité, aussi dans ses fragilités. Et ses fragilités, au lieu d'appuyer dessus, ce qui est la réaction bien naturelle, quand on est soi-même en souffrance ou que quand on en veut à l'autre, on va appuyer sur ce qui fait partie au quart de tour. Vous savez, en communauté, on sait très très bien faire ça. Je pense qu'en couple aussi. Eh bien, je peux aussi découvrir que la fragilité de l'autre, elle devient le lieu non seulement où j'aime l'autre à travers sa fragilité, mais où je vais aussi découvrir le chemin pour le porter. Et le pire du pire, ce qui vous donnerait des petits signaux que vous êtes vraiment en chemin vers la sainteté, c'est quand vous-même vous êtes fragile, que vous osez demander à l'autre son aide pour vous porter dans cette situation de fragilité. Alors je m'adresse surtout à vous, messieurs, mes frères, c'est hyper difficile pour nous de demander de l'aide de manière générale, et surtout quand ça ne va pas. Et bien, le jour où vous commencez à être capable de demander de l'aide à votre conjoint, de vous appuyer sur votre conjoint, quand vous êtes dans une situation limite, alors là, vous devenez vraiment instrument de Dieu pour la sainteté de votre conjoint. Votre conjoint se découvre capable, ou en tout cas désireux, de répondre à cette béance dans votre cœur, et là, vous commencez à avoir vraiment besoin l'un de l'autre pour cheminer vers la sainteté. La sainteté, ce n'est pas simplement quand moi, je suis en position de force, j'essaye d'aider mon conjoint, c'est aussi quand je me retrouve abîmé par la vie, rendu vulnérable par la difficulté, et bien que je puisse présenter ça au cœur de mon conjoint en lui demandant avec humilité de me porter. Et puis, le plus important, et je termine là, comment mon conjoint me sanctifie-t-il ? Et bien, ce n'est pas dans ce qu'il fait que le conjoint me sanctifie, c'est dans le fait qu'il est en chemin avec moi. L'Église est en chemin jusqu'à la fin des temps, le peuple de Dieu est en chemin jusqu'à la fin des temps, le couple sera en chemin jusqu'à la fin des temps et la personne humaine, elle est en chemin jusqu'à la fin des temps. Accepter que tu sois en chemin avec moi sans qu'on ait forcément la solution aux difficultés, sans qu'on ait d'idées géniales pour renouveler notre couple après 30, combien d'années de mariage ? 32 ans de mariage. Qu'est-ce qu'on peut inventer de génial pour renouveler notre couple ? On va peut-être rien inventer de génial, mais on va accepter de continuer le chemin. Et sur ce chemin, on accepte que Dieu soit avec nous le protagoniste du chemin. Je suis le chemin. La vérité et la vie, dit Jésus. quand nous marchons sur le chemin, quand le pèlerinage de l'Église se déploie, eh bien, nous découvrons que Dieu a mis à côté de nous des frères et des sœurs, un conjoint qui nous dit ce que Dieu veut nous dire au quotidien. Le 8 décembre 2015, c'est-à-dire le 8 décembre prochain, nous entrons dans l'année de la miséricorde, c'est mon mot de la fin. Eh bien, il y a un beau chemin que vous allez pouvoir développer toute l'année, c'est aussi se dire, qu'est-ce que c'est découvrir la miséricorde à l'égard de mon conjoint? La miséricorde pour Dieu, c'est l'amour de Dieu qui va au-delà de la fragilité de celui qu'il regarde pour continuer à le porter. Dieu n'arrête pas de donner sa grâce quand nous sommes pécheurs. Pousse, j'arrête de jouer. Tu as fait une grosse bêtise, tu as engueulé ton conjoint en lui disant « tu ressembles vraiment à ta mère ». Et bien maintenant, la grâce du sacrement, stop, on n'en parle plus, pause pendant un an. Dieu n'est pas comme ça. Et donc Dieu continue, malgré notre fragilité, à vouloir nous conduire et nous accompagner. Et bien ça, c'est aussi un regard hyper lumineux sur ce que vous êtes l'un pour l'autre en couple, et surtout, et aussi sur ce que vous êtes pour vos enfants. Vous avez un regard, vous n'arrêtez pas d'être parent parce que vos enfants font des bêtises, qu'ils se droguent ou qu'ils vivent à la colle ou que je ne sais pas quoi. Eh bien non. Comment continuer à être parent dans la charité et dans la vérité? Eh bien en étant miséricordieux. En allant chercher plus loin que le péché ce qu'il y a de beau dans le cœur de celui ou celle que vous accompagnez. Et là, votre vocation de parent, elle ressemble comme deux gouttes d'eau à notre vocation à nous, les consacrés, quand on accompagne des couples ou des personnes. Le lieu, le levier le plus important qu'on a dans le cœur d'une personne qui veut avancer sur le chemin de Dieu, c'est au-delà des difficultés, au-delà des limites, au-delà des fragilités, dire à la personne, qu'est-ce qu'il y a de plus grand dans ton cœur dont Dieu veut servir? Eh bien, faire jaillir ça dans le cœur de son conjoint, faire jaillir ça dans le cœur de ses enfants, de ceux qui nous côtoient, c'est une manière admirable dont vous pouvez devenir instrument de la miséricorde. Et si vous relisez le petit journal de Sainte Faustine, eh bien, la miséricorde, ça sera la dernière grande révélation de Dieu pour le monde en chemin. Eh bien, c'est pour le temps d'aujourd'hui, c'est pour la vie du couple d'aujourd'hui, c'est pour cette année, et où, comme si Dieu accélère un peu le cours de l'histoire, je vous dis, on se met tout doucement en chemin avec les époux Martin pour découvrir la sainteté du couple. Ça tombe en même temps quasiment que l'année de la miséricorde. Donc il faut que la sainteté du couple, ça soit, elle s'exerce à travers la miséricorde. Et la miséricorde révélée par Dieu à Sœur Faustine, c'est un signe du fait que le retour de Dieu est proche. Donc vous servez dans votre vie de couple, vécu en vérité, sous le sceau de la charité, avec la miséricorde, avec le désir de faire grandir l'autre, vous servez à Dieu à hâter son retour au milieu de nous. Donc merci d'oser ça, avec vos petites forces, qui deviennent immenses, habitées par la grâce de Dieu. Et voilà ce que je vous souhaite pour cette année, pour les 40 prochaines années, pour les 34 prochaines années de votre couple. Et merci de votre attention. Thank you.